France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2003, le cinéaste René Vautier avait 75 ans quand Xavier Barre lui consacrait un documentaire intitulé « René Vautier, caméra au point ». Caméra au point, comme le point levé de toutes les contestations, de toutes les luttes, de tous les combats sociaux, politiques et anticoloniaux dont les films de René Vautier auront été les porte-voix des années 50 jusqu'à la fin du XXe siècle. Avant de tourner « Avoir 20 ans dans les Aurès », son film le plus connu sorti en 1972, René Vautier avait eu 15 ans dans la Bretagne occupée de 1943, où il fut un adolescent résistant au sein d'un groupe des éclaireurs de France de Quimper. Cela valut à ce groupe d'être cité à l'ordre de la nation par le général de Gaulle et à Vautier d'être décoré de la croix de guerre. Comment ce départ dans la vie a-t-il conduit René Vautier à mettre sa formation reçue à l'IDEC au service de causes passées le plus souvent sous silence? C'est ce que nous allons l'entendre raconter dans l'émission qui va suivre, qui rappelait notamment ses engagements auprès de la classe ouvrière et dès 1950 dans les combats de la décolonisation en Afrique et en Algérie. L'Algérie où, en 1954, avec pour seule arme sa caméra, il se rangea du côté du FLN en tournant « Une nation, l'Algérie » et « Algérie en flammes ». Ce dont il fut étrangement payé en subissant la torture dans les geôles du FLN, où il passa plus de 2 ans avant d'être libéré, sans plus d'explications, et de devenir, après l'indépendance, le directeur du centre audiovisuel d'Alger. René Vautier, Caméra au point, un documentaire diffusé le 10 juin 2003 sur France Culture.
Surpris par la nuit.
René Vautier, caméra au point.
C'est sûr qu'on n'aurait pas pu, vivre si on n'avait pas pu montrer ce qu'on tournait. Et on n'aurait pas pu tourner ce qu'on a tourné si on n'avait pas eu des contacts avec les gens sur place qui éprouvaient aussi le besoin de dire, de parler. Bon. Et c'est vrai que notre part de création, ça a été d'essayer de faire entendre ce que les gens nous disaient. On était seulement, en fait, des petits haut-parleurs. On donnait la parole aux gens à qui les pouvoirs... On donnait l'image et le son aux gens à qui, en fait, les pouvoirs les refusaient. Les pouvoirs, c'était le pouvoir politique ou c'était le pouvoir économique. On a vécu du cinéma direct, du cinéma d'intervention sociale, de l'image prise et qu'il fallait trouver le moyen de montrer. On en a vécu en Bretagne comme d'autres en vivaient, René Alliot dans le Midi, Carpita dans ses premiers films. Il y a eu une floraison de choses qui étaient produites à l'échelon local ou régional. et qui s'échangeaient.
L'œuvre de René Vautier a été longtemps absente des histoires du cinéma. Parmi les multiples raisons de cette occultation, une opposition systématique et argumentée aux pouvoirs en place, le cliché commercial qui sépare soigneusement le cinéma et l'engagement, l'hégémonie économique de la fiction, enfin, une actualité politique et sociale parfois toujours brûlante, aujourd'hui encore. Notre époque a besoin des films de René Vautier, aujourd'hui régulièrement projetés, et qui servent d'exemple et de modèle à de nombreux cinéastes engagés. René Vautier occupe à présent la place qui lui revient, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire des images. 50 ans après sa condamnation à un an de prison pour la réalisation d'Afrique 50, l'historienne du cinéma Nicole Brenez, dans les Cahiers du cinéma, écrit d'Afrique 50 qu'il s'agit du plus grand film de l'histoire du cinéma.
Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée. Une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, quatre cadavres, trois hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année. 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala-Sansandingue sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine.
Quand j'ai démarré, quand je suis entré dans le cinéma, dans l'expression par l'image, c'était parce que auparavant, il y a un gars, quand j'avais 12 ans, 13 ans, qui m'avait dit, c'était mon prof de français, qui m'avait dit, tu sais que tu lis pas mal, mais dans ce qu'on te fait lire, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent ? J'ai dit, oui, il y a les choses que vous nous avez données à apprendre sur le Victor Hugo. Il dit, quel Victor Hugo ? J'ai dit, ben, le Victor Hugo qui dit, il faut chasser les Prussiens. Prenez vos fourches, prenez vos bâtons, prenez et battez-vous contre les Prussiens qui sont les occupants, qui sont, et ça datait pas mal d'années, mais la situation au moment où on lisait ça, quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'était l'occupation en France, c'était des soldats allemands. C'est-à-dire qu'à partir de poèmes, de poèmes qui étaient des poèmes anciens déjà, on pouvait parler d'une situation d'aujourd'hui. Et le prof Xavier Trélu, juste avant de partir en Angleterre, m'a dit « Bon, bah, écoute, ce serait peut-être bien que tu fasses entendre ça aux gens. » Et je ne sais pas s'il le savait, mais on le faisait entendre. C'est-à-dire que on avait... petit réseau basé sur des copains, sur le groupe des éclaireurs de France de Quimper, qui à l'échelon de notre région, de notre localité, essayait de pousser les gens à la résistance, ce qui n'était pas tellement facile parce que les adultes, il a fallu que les jeunes les poussent. Les adultes avaient tendance souvent à accepter quelque chose dont ils pensaient que ça allait durer, quoi. Et ce qui allait durer, c'était le péténisme, c'était... à notre niveau, on le refusait, mais comment on pouvait lutter ? On pouvait lutter à partir de choses qui avaient été écrites par d'autres. Et ce qui est intéressant, peut-être, sur le plan même de l'expression, de l'histoire de l'expression, c'est que nous lisions déjà ces poèmes-là, et puis on nous en a envoyé d'autres, parce qu'il y avait une... je pense pour moi que la première réaction de résistance contre l'occupation allemande en France, ça a été par la poésie. Ça a été par des textes qui, pour moi, qui, parce que j'avais commencé à lire du Victor Hugo, un jour, j'ai reçu des choses qui étaient écrites. J'ai su après que ça avait été, que c'était les lettres françaises clandestines. Bon, ça, je le savais, c'était écrit dessus. Et derrière, à l'intérieur, il y avait les poèmes de gens qui, dont j'ai su après, qui s'appelait Aragon, qui s'appelait Desnos, qui s'appelait Éluard, qui s'appelait... Et on a commencé à organiser, en se rendant compte aussi qu'il était nécessaire que l'on fasse passer quelque chose qui était interdit, on en a organisé un réseau de diffusion de poèmes à partir du lycée de Quimper et à partir du groupe Éclaireur de France de Quimper. Et puis on s'est dit, mais les armes, est-ce qu'on ne peut pas les prendre ici ? Et sans savoir exactement à quoi ça servait, les armes. On a fait aussi, on a étudié les moyens de... On avait 15 ans, on avait... Oui, quand on a commencé, même pas 15, 14 ans, à rechercher les dépôts de munitions allemands, à savoir comment on pouvait entrer dedans, et puis apprendre ce qui pouvait être utile, c'est-à-dire au départ, c'était les grenades, puisqu'on n'avait pas... Après, il y a eu autre chose, mais... bon, et puis, quand on a des grenades, d'abord, on les donne aux aînés, on les donne aux gens qui peuvent, et puis on les utilise aussi nous-mêmes, quoi. Seulement, là, il y a un problème qui a été pour moi toujours, c'était que quand tu balances des grenades sur des gens, ou bien tu acceptes l'idée que tu peux tuer. Et à l'époque, peut-être qu'on pouvait l'accepter assez facilement quand les gens portaient un uniforme en face, ou quand c'était des traîtres, ou quand c'était... Ou alors tu te dis, peut-être qu'il y a d'autres façons de se battre que d'utiliser les armes. Mais quand tu dis ça aux copains, ils te disent « Oh, et à partir d'un moment, on t'a toujours dit les armes, c'est répréhensible, il faut pas, enfin, c'était le discours de l'époque, les terroristes, et maintenant, ça redevient le même discours. Les gens qui prennent les armes et qui n'ont pas d'uniforme, c'est les terroristes. Mais où tu acceptes l'utilisation des armes à fond, et puis tu restes dans... Ou alors tu te dis, un jour, tu vois un gars en face sur qui tu balances une grenade, et ce gars, tu vois ses yeux. Tu vois ce qui reste du gars quand la grenade a pété. Et tu vois qu'il y a il y a des morceaux d'uniforme, ça te justifie un petit peu. Il avait un uniforme, qu'est-ce qu'il foutait là? Il occupait mon pays. Il occupait le coin où j'ai mes attaches, où j'ai envie de vivre. Ça t'excuse un petit peu. Mais tu dis, j'ai pas envie de recommencer. Ça, il faut quand même se battre. Quand tu as fait ça, après, il y a des choses qui sont gagnées. On parle de victoire, on parle de... on te décore. J'étais dans le groupe j'animais comme d'autres, avec quelques autres, un petit peu plus âgés que moi, le groupe Éclaireur de France de Quimper. Et en 1944, on nous a donné la Croix de Guerre. C'était, je crois, l'un des seuls groupes de jeunes en France qui a été collectivement cité à l'ordre de l'armée. Le problème, c'est qu'on était devenus antimilitaristes. Et on ne voulait pas que ça recommence, la domination des gens qui ont les armes. Mais les copains m'ont dit, oui, mais maintenant, tu dis ouvertement, c'est fini, la bagarre, elle va continuer. Sans ça, il y a d'autres occupations qui reviendront. On va amener des jeunes de chez nous avec les armes à acquérir cet esprit de domination qui a fait que les Allemands étaient chez nous. Donc, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu veux pas d'armes? Tu veux pas de... C'est quoi alors? Et m'ont expédié, passer le concours d'entrée à l'IDEC. Et c'est comme ça que je suis devenu cinéaste, parce que la caméra, ça pouvait être une arme.
La caméra est une arme et sert dans de nombreux combats. Le parcours personnel et cinématographique de René Vautier, qui croise et crée de nombreuses constellations de cinéastes, du Centre audiovisuel d'Alger à l'unité de production Cinéma Bretagne, épouse en effet les grandes luttes de la deuxième moitié du XXe siècle. Anticolonialisme, indépendance de l'Algérie, luttes ouvrières, combat des femmes, lutte contre les conséquences de l'industrie sur l'environnement, contre les dangers du nucléaire, injustice des politiques sociales, etc. Pour René Vautier, l'image comme arme a au moins trois fonctions. Décrire, discerner le vrai, combattre. Comme on le voit par exemple en 1978 dans Marée noire et colère rouge sur le naufrage de l'Amoco Cadiz.
À la fin de l'été, le président Giscard d'Estaing est venu à Port-Sal pour mettre un point final officiel à cette affaire de l'Amoco Cadiz, dont l'odeur était un peu gênante sur bien des plans. Après trois petits tours autour de l'épave, il a décrété que les journalistes se devaient d'écrire qu'il n'y avait plus de traces de pollution à Port-Sal, comme il avait pu le constater lui-même. Le même jour, l'équipe de ce film a amené un huissier à Port-Sal qui a constaté qu'il y avait encore bien des traces de mazout. Nous pouvons donc, huissier à l'appui, prendre le président de la République en flagrant délit de mensonge.
Il existerait donc pour René Vautier une quatrième fonction de l'image, résister à la censure. Politique ou économique, légale ou illégale, résister à la censure sous toutes ses formes. Saisie, coupe, confiscation, procès, interdiction, destruction, emprisonnement, absence de production, obstacle à la diffusion. Une censure contre laquelle René Vautier se bat depuis ses premières images.
D'abord, il y a eu la grève des mineurs en 1948. Et au moment de la grève des mineurs, on est parti, mais pas pour tourner un film sur la grève même. C'était pratiquement toutes les zones où il y avait des mines en grève, c'était devenu zone interdite. C'était occupé par l'armée française, par des gens, pour l'armée mobilisée pour la répression. contre les mineurs. Et il y avait des mouvements qui préconisaient l'accueil dans d'autres régions moins touchées par le conflit en France, l'accueil des enfants de mineurs. Et on a été tourner un film là-dessus. J'étais encore à l'IDEC, j'ai quitté l'IDEC illégalement, c'est vrai, pour aller tourner, puis avec des copains qui étaient, eux, des bénévoles, mais qui étaient des professionnels de l'image, mais qui pensaient qu'on ne peut pas séparer sa citoyenneté et sa réaction, disons, politique ou simplement humaine même, de son métier. Donc, ils sont partis pour tourner ce film sur les enfants de mineurs. Et puis, quand tu tournes un film sur les enfants de mineurs et sur les familles des enfants de mineurs, t'en arrives à te demander pourquoi les gens font la grève. Et c'est devenu un film qui s'est appelé La grande lutte des mineurs. Et puis, à partir de ce moment-là, quand tu entres dans ce métier d'image, dans ce métier de cinéaste, et que tu es mêlé à cette histoire-là de films contestataires et donc contestés, tu t'aperçois que pour empêcher la diffusion du film, il y a eu un décret qui a été pris, qu'on a appelé le décret Jules Moch. Jules Moch était à l'époque ministre de l'Intérieur, et c'est lui qui avait couvert l'assassinat de mineurs par les forces armées qui avaient tiré sur une manifestation pacifique. Et on l'avait vu, cette manifestation, et on l'avait filmée. Et les gens qui l'ont filmée, les journalistes qui étaient là autour, ont signé une affiche qu'on avait intégrée dans le film et qui s'intitulait « Jules Moch, le menteur ». Et on accusait, dans cette affiche, des journalistes, mais qui étaient des journalistes de l'Aurore, du Figaro, de France Soir, de l'Humanité. À l'époque, il y a un journal aussi qui s'appelait Franc-Tireur. C'était, bon, tous avaient signé en disant « il n'y a pas un seul coup de feu qui est parti des rangs des manifestants, comme le dit le ministre de l'Intérieur. S'il y a eu des morts, les morts dans les rangs des mineurs, les morts, les seuls morts, du conflit, ça a été du fait des tirs des forces de l'ordre qui ont tiré sans provocation. Il y a eu des jets, comme ça se fait dans toute manifestation, des jets de pierre, de ce qu'on avait sous la main. Mais en face, les gens ont répondu par des tirs et qui ont provoqué des morts. Bon, et on disait donc Jules Moch le menteur. À l'époque, il n'y avait pas de censure sur l'image. Et quand ce film est né, il a commencé à être diffusé, il y a un décret qui a été pris et qu'on a appliqué rétrospectivement contre ce film, et qui était un décret instituant un visa non commercial. Avant, il y avait un visa pour tout ce qui était diffusion commerciale dans les salles de cinéma, mais à part ça, on a eu le droit de projeter des images. Et là, il y a eu ce fameux décret de décembre 1948 qui interdisait toute projection devant plus, je crois, de 3 personnes de films sans un visa, qu'on appelait le visa non commercial. Et c'était interdire, en fait, aux organisations syndicales, aux associations, l'utilisation de l'image pour communiquer avec leurs adhérents. Et ça a été pratiquement un arrêt sur le plan de l'expression cinématographique en France. Parce que le cinéma, ça se bâtit par étages. Et on a vu, parce qu'à l'époque, on a été quand même étudié ce qui se passait ailleurs, en particulier en Italie, et on s'est aperçu qu'il y a pu y avoir en Italie tout ce cinéma néo-réaliste italien qui était basé sur, moins sur la participation des cinéastes aux actions de base de la rue, qu'au fait que les cinéastes pouvaient voir des images qui étaient faites directement à l'échelon populaire. Il y avait des petites caméras, des gens qui se sont servis de cela pour montrer les fêtes, des Italiens qui tournaient les fêtes, qui tournaient les grèves, qui tournaient, et qui les projetaient. Et des cinéastes qui venaient voir de leur monde, deux cinéastes qui étaient quand même un petit peu isolés par rapport. Ils voyaient ces images-là. Et ensuite, ils les transposaient dans un certain nombre de films qu'ils faisaient. Le cinéma néo-réaliste italien, sur le plan social, a été très en avance par rapport au cinéma français. Ensuite, ça s'est rattrapé, ça s'est équilibré un petit peu, mais au départ, il y a eu, en France, il y a un décret qui a arrêté, pratiquement, qui a essayé d'arrêter toute liaison entre le monde social et l'expression par l'image.
Le gouvernement fait tout pour que la femme ne soit pas l'égale de l'homme, alors que les hommes, ils nous aident aussi. Hein? D'accord? C'est difficile pour eux, hein?
Quand les femmes ont pris la colère,
faut comprendre, un homme
1977.
Est dans l'usine toute la journée, oppressé par les bruits, les cadences et l'ambiance sociale qui règne avec le patron et les ingénieurs qui viennent de très haut et qui dédaignent vraiment la personnalité de l'ouvrier. Parce qu'après tout, un ouvrier peut être OS, mais enfin, il crée quelque chose. Disons que l'OS actuellement est complexé, il fait pas... Il est frustré un peu. Alors cet homme-là, il rentre chez lui. Je parle pas de la circulation et le trajet. Il rentre chez lui, il voit une femme qui a beaucoup de problèmes, parce que là, la femme ouvrière a beaucoup, beaucoup de problèmes. Dommage que François Giroud n'a jamais abordé ces problèmes, parce que je pense que ça concerne la majorité des femmes. Et il voit un mur devant lui. Il n'est même pas possible de discuter. Hein. On ne peut pas dire, bon, on va s'asseoir, on va parler tranquillement, on va discuter de nos problèmes. Ça se fait une fois de temps en temps, à la bonne année ou au premier de l'an. Et puis ça porte rien. C'est un petit face-à-face comme ça qu'on a de temps en temps. Alors l'homme, eh ben, il cogne. Il cogne contre tout ce qu'il a. C'est sa rage qui explose. Et il y a beaucoup de femmes battues. Comme la femme qui cogne ses enfants pour avoir la paix, pour plus entendre rien. C'est très très grave ça. C'est général et on ne le sait pas. Je ne pense pas que tel docteur ou tel ingénieur va taper sur sa femme. Enfin, nous, on se repère au film, quand on voit un film sur un couple au cinéma. Monsieur Chabrol, il veut aborder les problèmes du couple, mais c'est dommage, il aborde le couple bourgeois. Et qui a osé aborder les problèmes de l'ouvrier dans la sexualité, dans les rapports intelligents et tout? Personne, parce que ça ferait remettre en question toute la société.
Quand on m'a proposé, parce qu'il y avait des classements à la sortie de l'IDEC et que j'avais été bien classé, on m'a dit, voilà, est-ce que tu ne voudrais pas aller tourner un film? Mais là, tu ne seras pas assistant. J'avais été stagiaire. Là, tu ne seras pas assistant, tu seras réalisateur. Mais c'est un petit film destiné au lycée et collège de France et de Navarre sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française. Je dis, c'est parfait, c'est bien qu'on utilise le cinéma pour faire connaître une réalité. C'est ce que m'avaient demandé les copains à la sortie du Maquis. Ils m'avaient dit, et puis tu nous as lu des textes où tu disais, je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Je dis, c'est pas moi qui le disais, c'était Éluard, mais effectivement, je vous ai lu ces poèmes, les poèmes d'Éluard. Il dit, alors là, maintenant, quand tu filmeras, tu filmeras ce que tu vois, ce que tu sais, ce qui est vrai. Donc, quand on m'a dit « tu vas aller en Afrique », c'était chic, j'avais 21 ans, et je suis parti, et puis je suis revenu, j'étais parti pour un mois et demi, je crois, et je suis revenu un an après, pratiquement, avec une condamnation à un an de prison, et puis avec Afrique 50, qui est devenu, d'une part... objet de saisies multiples et diverses, mais qui a été quand même à l'époque classé parmi les trois meilleurs documentaires français de l'année. C'était important pour, je pense, pour l'histoire du cinéma, parce que c'était le premier film en 16 mm, donc en format non commercial, en format non professionnel théoriquement, qui avait été cité par un jury professionnel, le jury du prix Lumière, pour parmi les trois meilleurs courts-métrages français de l'année. Et à côté, alors pour moi, ça c'est sur un plan général, mais non, on reconnaissait en fait qu'on pouvait faire des choses qui étaient en format d'amateur et qui étaient à classer au milieu de l'expression par l'image, donc comme les films professionnels, comme les films diffusés dans les salles, bien que le film n'ait jamais été diffusé dans une salle normale parce qu'il n'a jamais eu de visa.
Afrique 50.
Sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, les chargements d'arachide sans espoir d'huile et de savon, les chargements d'okoumé, d'acajou, sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales. Demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France, mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville, Dimbokro, Séguéla, Daloa, Boisflay, Kétékré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines. Des rafles. Des fusillades. Ngobena tué à coups de crosse. Mbogoum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des destiennes d'or, comme des guimauquets. L'administrateur Osuré assassine sur son cercle. Le commandant Cuny brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations.
Mais il a été pris par les mouvements de jeunes. On a tiré des copies en disant aux mouvements de jeunes, et là aussi c'était une forme de diffusion un peu particulière, on leur a dit, écoutez, voilà, ça coûte tant la copie. Il n'y a pas de négatif, mais on a tiré un internégatif à partir des images sauvées, celles qui n'ont pas été détruites. Les deux tiers avaient été détruits à partir du tiers qui restait. On a réussi à faire un truc complètement illégal, mais qui a eu quand même une grande diffusion dans les milieux des mouvements de jeunesse de l'époque. Et pourquoi ? Parce que parce qu'il y avait derrière le groupe Éclaireurs de France de Quimper qui m'avait soutenu, parce que quand on m'avait poursuivi, et, ça avait fait un certain bruit, hein, parce que internationalement, il y avait à l'époque un festival mondial de la jeunesse et que le jury du festival mondial de la jeunesse sur le plan cinéma était présidé par Joris Evans. Et Joris Evans était le dieu de tous les gens qui faisaient un petit peu de documentaires engagés à l'époque. Et c'est Joris Evans qui m'a remis la médaille d'or du documentaire de jeunes réalisateurs. Et voilà, et puis à partir de là, j'avais donc un an de prison, théoriquement, et comme les copains ne voulaient pas que j'aille en prison, je suis devenu matelot de pont sur un bateau de Douarnenez, ce qui a fait que j'ai connu aussi les conditions de travail de certaines catégories professionnelles autres que le cinéma en France. Et j'étais matelot de pont sur un bateau de Douarnenez. Et puis, quand je suis revenu, le bateau me laissait... j'avais 22 ans à l'époque, quoi, et le bateau me laissait en Irlande quand il revenait vendre le poisson en Bretagne, et puis il me reprenait après. Ça. Et puis, un jour, j'en ai quand même eu assez d'être loin de la Bretagne. Je suis rentré avec le bateau, et il y avait un gars qui avait été tué à Brest, pendant les grèves de Brest. Et les copains m'ont dit, bah, t'as ta caméra, tu t'en sers même pas à bord, parce que t'as le mal de mer. C'était pas tout à fait vrai, mais enfin, je voyais pas le rapport entre le métier de marin et puis les images à faire. Je voyais pas, j'avais pas envie de faire quelque chose sur... Les choses manuelles que je faisais, quoi, là, à l'époque. Bon, je me disais, là, il faut faire de belles images. Peut-être que je suis pas capable, donc je reviendrai un jour avec un opérateur et on fera un truc de bon.
Mourir pour des images, 1977.
Ce bruit de mer, là, vous êtes toujours à dire, oh mon Dieu, où c'est qu'il roule, où c'est qu'il est. On sait bien qu'il ne restera pas tout entier, tout le temps, mais on a toujours le pressentiment, là. Et, comme moi, j'ai eu un frère perdu au Rapsin, j'ai un neveu qui est perdu en mer aussi, on n'a jamais trouvé le corps. Alors, vous savez, quand il y a un naufrage ici, c'est pour nous, et quand on retrouve les corps, ben, c'est une consolation pour les autres, pour les parents toujours.
Et puis ils m'ont ramené, les copains m'ont donc ramené à Douarnenez, et il y avait l'enterrement donc d'Edouard Mazet à Brest. J'ai été tourner le film, bon, qui s'appelle « Un homme est mort ». On a eu mis un commentaire d'Éluard sur les images que j'avais tournées. Là, c'était un tout petit truc, mais j'ai pu voir là, il a fallu que je voie comment on pouvait utiliser directement l'image. Et c'est peut-être là, on a dit, Vautier a créé le film d'intervention sociale à partir de... Bon, à partir de quoi? On ne peut plus rien montrer maintenant. Il existe très peu de choses qui étaient sauvées de ce film. Mais j'avais enregistré à côté sur un magnétophone à fil et j'avais enregistré un poème d'Éluard qui disait « Un homme est mort, qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie, un homme est mort, qui continuait la lutte contre la mort, contre l'oubli, et etc. etc. » C'est un très beau poème, et ça collait parfaitement avec les images qu'on avait sur l'enterrement d'Edouard Mazet. Et puis, pourquoi il y avait eu cette grève? C'était une période de très grande tension sociale à Brest, et en même temps de tension politique, c'est-à-dire que il y avait des grèves de dockers qui refusaient de charger les armes qu'on expédiait en Indochine. À l'époque, c'était la guerre d'Indochine. C'était... Donc, ils refusaient. Et il y avait une présence policière dans les ports pour lutter contre cette grève. À côté, il y avait des questions sociales qui se posaient aussi. Il y a eu une espèce de conjugaison de diverses sources d'agitation, disons. Et on a décidé, avec les deux gars qu'on avait mis à ma disposition, qui étaient deux jeunes gars, on a décidé d'essayer de projeter le film à peine développé et monté, de le projeter toutes les nuits sur les lieux qui étaient occupés par les grévistes, sur les chantiers. Et quand on a essayé d'étudier la possibilité, ils n'avaient pas des solutions très orthodoxes. Par exemple, quand j'ai dit, mais on aurait besoin de deux voitures, une camionnette. La camionnette, on l'a, il faudrait tendre un drap à l'arrière et puis avoir un fil assez long pour pouvoir se brancher. Une autre voiture sur laquelle on mettrait l'appareil de projection. Le gars me dit, moi je vais demander à mon oncle, me dit Tizef. Tizef, c'est le surnom de tous les gars à Brest. Un surnom comme on dit les Titi à Paris. Brest, c'est Tizef. Mais en plus, il s'appelait Tizef. Il s'appelait Joseph. Donc Tizef, c'était normal. Et Tizef, il m'a dit, je vais demander à mon oncle. Il va me prêter sa bagnole. Et il amène une bagnole. Et je me souviens, c'était une Juve à 4. Et une Juve à 4, c'est pas très grand. Mais c'est tout, évidemment, c'est tout couvert. Je ne voyais pas où on pourrait installer l'appareil de projection dessus. Alors, je lui dis, ça aurait été mieux quand même si ça avait été une décapotable. On va voir comment on peut arrimer dessus des plateformes, enfin une petite plateforme de bois. Pour... Il dit, ah, mais tu aurais préféré une décapotable. Attends, je vais te ramener une décapotable. Il repart avec la voiture et il revient, il avait coupé le toit. Ça m'a un petit peu sidéré de voir. J'ai dit, mais ton oncle, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ah, mais j'ai fait ça avec le truc qui fait du feu, là, tu sais. J'ai appris à faire la soudure en même temps. On m'a montré comment faire la soudure. Alors, je ressoudrai tout ça après. Il y a le toit que j'ai gardé à côté. Bon, et puis, mon oncle, il n'y verra que du feu, c'est le cas de le dire. Quoi. Et puis, on a installé appareil de projection dans cette voiture-là. En plus, comme ils avaient beaucoup manipulé, ça les intéressait bien, la projection, mais ils ne connaissaient pas le maniement des appareils. À force de manipuler la mise au point, ils l'avaient complètement bloqué. Si bien qu'on ne pouvait plus tourner la bague de mise au point de l'appareil de projection. Et pour avoir le point, il fallait qu'on avance ou qu'on recule la voiture par rapport à l'écran. C'était complètement dingue, mais on a fait au rythme de 8 à 10 projections par nuit. Et puis dans la journée, on allait faire les projections autour, chez les paysans, tout autour de Brest, et ils payaient leur place en apportant des légumes pour faire une soupe populaire. C'était une utilisation réellement nouvelle du cinéma, quoi. On avait enregistré le son sur un magnétophone à fil. Mais déjà, pendant la projection à Brest, le magnétophone à fil cassait tout le temps. Le fil cassait tout le temps. Maintenant, c'est des magnétophones à bande. Mais à l'époque, c'était un fil sur lequel il y avait une espèce de poudre dessus qui retenait le son, c'était magnétisé. Bon, le son magnétique, là. De temps en temps, le fil cassait. Alors, on faisait un nœud. Alors après, ça faisait des pop quand ça arrivait sur le nœud, mais ça passait quand même. Ça. Et puis, quand même, ça cassait souvent. Alors, j'ai décidé un jour que j'allais dire les projections moi-même, le commentaire moi-même pendant les projections. Je disais donc un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie, et puis pendant que les images se déroulaient, et puis j'ai eu une extinction de voix. Et le Tizef, à côté de moi, il dit « Mais laisse !» Il avait l'accent brestois coupé au couteau. Il dit « Mais laisse, tu vas voir, moi je sais tout maintenant, tout ce que tu dis, je dirais ça aussi bien que toi, et on va, tu vas voir, tu vas... » Et j'ai dit, bon, ben, on va essayer, puisque je ne pouvais plus trop parler. Mais la première fois, ça m'a tellement sidéré sa façon de dire le commentaire que la fois suivante, j'ai rebranché le magnétophone et j'ai enregistré ce qu'il disait. J'avais donc le texte du poème d'Éluard dit par Tizèphe, mais à sa façon. Et ça donnait « Un homme est mort qui n'est pour défense que ses bras qui étaient grands ouverts devant nous dans les manifestations et Edouard Mazé qui s'appelait, les flics ont tiré dessus. Un homme est mort qui n'est pour défense que ses bras qui étaient ouverts devant nous tous dans la manifestation et il s'appelait Edouard Mazé, les flics l'ont tiré dessus et il est mort à côté de moi par terre. Et un homme est mort qui n'avait d'autre but que d'autre route que celle où l'on est, les fusils. Et un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli. Edouard Mazé, il s'appelait, il ne faut pas oublier ça. » Et il avait complètement transformé le poème. Et j'ai enregistré ça. Et là, je me suis dit, au fond, tant qu'à faire le jeu de la projection populaire, je vais passer le truc avec le texte de Tizèphe. Et on l'a projeté. Et puis, pendant que je faisais la projection dans la cabine de projection, le film cassait. Mais il cassait, il n'y a pas eu une interruption pendant la projection. Il y avait 300 gars dans la salle, des techniciens du cinéma, des trucs. Mais ils ne se sont même pas rendus compte que le film cassait, parce qu'il cassait au-dessous de la petite fenêtre de visée de l'appareil de projection. Et il sortait au-dessous en morceaux, peut-être qu'il y avait trop de tirage sur la bobine d'en bas, la bobine réceptrice. Enfin, ça passait, et ensuite, au-dessous, ça sortait en petits morceaux. Et j'en ai tellement ras-le-bol. Et en plus, si j'aurais pas fait un film comme ça, donc c'était un film qui, pour moi, avait une valeur d'actualité, mais pas, c'était pas un film qui était fait pour rester, quoi. Et puis en plus, le voir comme ça, en petits morceaux, partout, par terre, j'ai tout balayé, j'ai tout balancé dans le vide ordure. Et ensuite, Max Douy est venu avec Alcan, et ils m'ont dit « Écoute, René, il faut à tout prix montrer ce film à Paul Éluard. » Je dis « Non, mais de toute façon, il n'y a plus de film. » Et bon, je me suis fait engueuler. Ce n'était pas la première fois. Et il m'avait déjà engueulé parce qu'un jour, pour tirer des copies d'Afrique 50, j'avais vendu la médaille d'or qu'on m'avait donnée pour le film. Et là, donc, ils me disent « Maintenant, non seulement tu vends la médaille, mais en plus, tu bousilles le film, tu le balances, parce que c'était en inversible, et il ne restait plus rien, quoi. » Sauf la bande-son enregistrée par Tizèphe. Et ils me disent « Ça, tu vas venir la faire entendre à Éluard, qui vient à une réunion du Comité national des écrivains, après-demain, et il faudra que tu viennes avec ton lecteur à fil. » Et puis, quand je suis arrivé là, c'était assez somptueux. Il y avait une grande table avec des gens autour de la table. Et puis, alors, ils se sont marrés quand je suis arrivé avec ma petite bobine. Et puis, bon, Éluard était dans un coin, il avait une grande cape. Et puis, il y avait une très belle femme à côté de lui qui a pris le magnétophone et qui l'a installé sur les genoux et puis qui a été branché le fil. Et puis, on met le truc en marche et Éluard était toujours, je ne le voyais pas, il était sous sa cape, tourné vers le mur. Et il toussait de temps en temps. Il écoute et puis ça continue à tourner, mais il n'y avait plus rien sur le fil. C'était fini, quoi. C'était, alors je le dis à la dame qui était là. J'ai dit, magnétophone, c'est fini. Mais je crois qu'il s'est endormi. Et Éluard se retourne et il me dit, non, jeune homme, je ne suis pas endormi. Et je vois qu'il pleurait. Et il dit, je ne suis pas endormi, mais laisser un vieux poète se faire à l'idée que l'un de ses poèmes, de son vivant, a été digéré par le peuple. Alors, et puis il se retourne encore vers moi une fois, et puis il me dit « Merci, jeune homme ». Et voilà, c'était aussi une expérience. Et j'ai retrouvé ensuite des petits morceaux du film, parce que il y avait une partie des rushs du film qui a été utilisée Et je crois que c'est important aussi de le signaler, justement pour ces échanges. On n'avait pas l'impression qu'on était propriétaire de ce qu'on faisait. On le faisait pour une cause, comme ça, pour faire connaître un certain nombre de choses. Pour moi, c'était pour faire connaître les luttes au moment où elles se passaient. Et pour être, c'était la définition qui est devenue ensuite la définition du cinéma d'intervention sociale, on filme une réalité pour pouvoir influer, pour que les images puissent influer sur le cours de cette réalité, sur l'évolution de cette réalité. On faisait des films sur une grève pour que la grève tourne dans le bon sens, pour que ça soit utile. Et là, quand d'autres voulaient utiliser des extraits du film qu'on avait fait, parce que c'était normal qu'ils les prennent, qu'on reproduisait les images à côté qu'on collait dans un autre film sur une autre réalité, mais où ces images-là pouvaient aussi trouver leur utilité. Et j'ai trouvé comme ça, dans un film qui s'appelle « Vive les dockers », qui est de Robert Mengoz, et qui est sur un film plus général sur les ports de France en grève, les dockers, les ports de France en grève pour ne pas charger les armes pour la guerre d'Indochine. Dans ce film, il n'y avait pas d'image sur les luttes des dockers de Brest, et ils ont pris des images dans les rushs que j'avais laissées. Ils ont pris des images là-dedans, les choses que je n'avais pas utilisées dans mon film, on les retrouve dans le film de Robert Mengoz. Je m'aperçois maintenant que les films ont pratiquement une double vie. Moi, je les ai faits pendant des années pour une utilisation immédiate. Je dirais même que les films que j'ai pu monter, comme « Avoir 20 ans dans les ORS », par exemple, bon, c'était un film, disons, qui a eu une utilisation commerciale, qui est passé dans les salles commerciales, qui a été primé à Cannes, qui était... mais quand je l'ai fait, c'est que pendant la guerre d'Algérie, j'avais tourné aux côtés des Algériens. J'avais d'abord fait un film en pensant qu'il était utile au début de la guerre d'Algérie. À l'époque, je travaillais pour faire une étude en images des rapports entre la France et le Maghreb. Et c'était au départ une idée de film basée sur les peintres qui étaient partis avec l'armée, les dessinateurs qui étaient partis avec les colonnes françaises pendant la conquête de l'Algérie et qui avaient fait des dessins. Et là aussi, ce serait marrant de les reprendre maintenant quand on parle pendant la guerre d'Irak maintenant, là, de 2003. On a trouvé une solution pour obliger les journalistes et les reporters images à voir un petit peu, quand on parle de point de vue, à partager le point de vue des soldats américains et anglais, dans quelques cas. Et on dit qu'ils sont « embedded ». Et « embedded », quand j'ai demandé ce que ça voulait dire, on m'a dit « ça vient de « bed ». C'est-à-dire que, je ne sais pas si l'Américain qui m'a répondu ça se foutait de moi ou pas, mais il dit qu'ils sont dans le même lit. Et il y avait aussi, depuis l'expédition d'Égypte de Napoléon, il y avait des peintres qui étaient embedded, c'est-à-dire qu'on les intégrait dans les colonnes françaises, dans l'armée française, et puis ils peignaient avec les yeux des soldats, des soldats de la conquête déjà à l'époque. Et je travaillais là-dessus, c'était un sujet qui m'intéressait, Donc en 1900, je ne vais quand même pas trop vieillir, c'était pas en 1800, c'était en 1954, je travaillais à la Bibliothèque nationale là-dessus, et puis il y a eu le début de la guerre d'Algérie. Le 1er novembre 1954, les premières explosions, je me suis dit, au fond, les peintres, et ce qu'on raconte sur les peintres, c'est intéressant, c'est bien d'avoir les images, mais à côté, il y a aussi tous les textes qui sont déposés là-bas, et qui sont les textes des militaires, des gens qui ont fait la conquête. Et j'ai découvert, comme ça, par exemple, parce que je n'avais pas une très grande formation politique, j'ai découvert que il y avait des rapports de certains colonels qui disaient les tribus s'étant réfugiées dans les grottes, j'ai demandé à nos braves petits militaires d'amener des fagots. On a entassé les fagots à l'entrée des grottes et on y a mis un feu d'enfer qu'on a entretenu toute la nuit. Et la journée suivante, nous avons sorti 732 cadavres, hommes, femmes et enfants. Bon, ça s'est appelé les enfumades. Et le général qui a reçu les premiers rapports là dit « mais c'est une très bonne solution, effectivement, pour se débarrasser des gens qui... » Il a répondu cette idée que c'était une façon normale de faire la guerre. Et ça s'est appelé les enfumades. On a parlé des enfumades du Dara, on a parlé. Moi, je me suis dit « mais en fait, est-ce qu'on n'aurait pas inventé les chambres à gaz ?» pendant cette période de conquête de l'Algérie. Et je l'ai suggéré dans le film qu'il fallait faire attention quand même, que ça ne se... pourquoi on allait envoyer des jeunes là-bas, des jeunes du contingent qui ne connaissent pas les lieux, qu'est-ce qu'on va leur donner comme consigne quand on les envoie, non ? Et j'ai fait le film là-dessus, qui s'est appelé « Une nation, l'Algérie », parce que finalement, à partir des textes, je me disais, l'Algérie a été indépendante. Et quand je me le disais, toujours je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai, à partir des textes, j'en arrivais à la conclusion que l'Algérie avait été pratiquement indépendante sous le contrôle lointain de la porte ottomane, des Turcs. Je racontais ça en disant, en terminant, bon, ben, l'Algérie a été indépendante, elle le redeviendra sûrement. Peut-être qu'il conviendrait maintenant de se battre, de discuter avec les gens qui se battent pour cette indépendance, plutôt avant que des flots de sang ne coulent, etc. etc. Bon. Et puis, je présente le film en 1955 à la Ligue de l'Enseignement, et la Ligue de l'Enseignement me répond par lettre « Votre film est évidemment très intéressant ». Basé sur des notions irréfutables, mais il nous est absolument impossible d'envisager sa diffusion dans les lycées et collèges, dans la mesure où il va complètement à l'encontre de tout ce que demandent de toutes les directives de l'éducation nationale sur le plan de l'enseignement de la conquête de l'Algérie. Bon, alors, et puis, comme je disais dedans, je l'ai quand même projeté, bien sûr, en France, et j'ai été poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parce que je disais l'Algérie sera indépendante, et on m'a dit l'Algérie, c'est trois départements français, donc il est hors de question qu'on puisse dire que ces départements vont devenir indépendants, donc vous êtes coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Alors, j'ai une réaction très, 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 très ouverte, d'ailleurs, parce que je l'ai dit. J'ai dit, bon, ben alors, on me dit que les Algériens sont des Français, qui vivent dans des départements français, avec peut-être pas français à part entière, mais en fait, qui sont français. Si des Français se révoltent, c'est qu'ils ont des raisons à faire valoir, ben je vais aller leur demander ces raisons, voir d'abord ce qui se passe là-bas, filmer ce qui se passe là-bas, et leur donner la parole pour qu'ils puissent dire, parce qu'il est quand même nécessaire, avec ces Français du sud de la Méditerranée, d'entretenir un dialogue On ne va pas, parce qu'à quelques coups de feu, arrêter complètement le dialogue avec eux. Il reste des Français, c'est vous qui le dites. Donc je vais aller donner la parole à ces Français-là. Et j'ai été filmé au maquis, en Algérie. Bon, j'étais blessé, ce qui était... Je trouvais assez logique que des gens, que des Français me tirent dessus. En face, à partir du moment où je me trouvais aux côtés d'Algériens et que c'était... c'était pas la guerre, parce que théoriquement, c'était pas la guerre. Il n'y a jamais eu de guerre d'Algérie, jusqu'il y a 3 ans, 4 ans, on a dit que finalement, oui, il y avait eu la guerre. Mais pendant tout ce temps-là, c'était des opérations de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout l'impression d'être dans l'illégalité en me trouvant aux côtés des Algériens. Donc, enfin, c'était peut-être des raisons que je me donnais aussi. Je pensais que le cinéma pouvait être utile pour faire avancer une notion qui était en train de s'ancrer progressivement dans ma tête, c'était que l'indépendance de l'Algérie était réellement inéluctable. Alors, évidemment, j'ai filmé des gens qui me tiraient dessus un jour, et j'avais déjà été blessé un petit peu du côté des hanches, et je ne pouvais plus du tout remuer les jambes. J'étais sur un truc... tout plat, sans protection aucune, et je voyais les gens en face qui installaient un fusil mitrailleur et qui me tiraient dessus. Voilà, et puis j'ai filmé la première rafale qui est arrivée devant la caméra, et la deuxième rafale a arraché l'objectif de la caméra, et puis je me suis évanoui. Et puis, après, j'ai appris qu'il y avait... on a d'abord cru que c'était un éclat de balle qui m'était rentré dans le crâne, et c'était pas un éclat de balle, c'était un morceau de la bague de l'objectif que les balles avaient arraché, et l'objectif avait un petit peu explosé, et la partie laiton, c'est-à-dire c'est un métal qui est pas très dur quand même, mais c'était très effilé, était rentré directement dans le crâne et puis avait traversé la boîte crânienne, quoi. Puis touché un petit peu le cerveau. Et puis, s'il y avait encore des choses à l'image, parce que l'objectif avait été arraché, mais on s'est aperçu que la caméra n'avait pas été ouverte sous le choc, elle était cabossée, là, on a réussi à l'ouvrir après, à récupérer dans le noir la bobine qui était dedans, et les images sont intégrées dans Algérie en flammes, dans le film que j'ai monté ensuite. Voilà.
Bien le bonjour, mon lieutenant, vos petites guéguerres, bien le bonjour, mon lieutenant, vos petites guéguerres ont fait leur temps. Oh Laos, tu l'as eu dans l'os, l'Indochine est à Ho Chi Minh, Côte d'Ivoire, tu t'es fait avoir, à Suez, y'en a serre qui te pèse, la Guinée, tu l'as eu dans le nez, Dien Bien Phu, tu l'as eu dans le cul, et les Aurès, tu l'as dans les fesses. Bien le bonjour, mon lieutenant, vos petites guéguerres, bien le bonjour, mon lieutenant, vos petites guéguerres ont fait leur temps.
Il y a eu la projection, et pendant la fin de la projection, devant donc les responsables algériens, bon, et puis ils voient le film, et il y a un qui dit, avec quand même, moi je demande qu'il y ait une coupe dans le film, c'est l'endroit où on voit les Junoud qui pleurent, les combattants algériens qui sont au garde-à-vous, il y a un appel aux morts, et ils pleurent en apprenant que leurs copains sont morts, que... Alors, je dis, mais pourquoi il faut couper ça? Il dit, parce que, dit le gars, les Junoud, les combattants, ça ne pleure pas. Je lui dis, je ne les ai pas inventés, les gens qui pleurent dans le film, là, puis le ton monte un peu. Donc, allez-y, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis contre toute censure, de toute façon. Donc, j'ajoute maintenant, si vous voulez, on fait un pari. Et si je gagne le pari... Alors c'était quand même un petit peu prétentieux, le petit Français, mais qui a mené le film quand même, c'était mon film, c'est moi qui l'avais tourné, j'avais précisé que j'étais indépendant de tout, dans toutes les questions de tournage. Et Aban l'avait accepté, mais là, je tombais sur des Algériens que je connaissais pas, puis qui étaient apparemment des responsables. Et je leur dis, on va faire un pari. Si je gagne le pari, vous coupez rien, vous diffusez le film comme ça, la version arabe, comme ça. Si je perds le pari, vous coupez ce que vous voulez et puis vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis plus responsable du tout. Je dirais, je ne suis plus responsable de ce qui se passe. Et ils discutent entre eux. Et puis, il y en a un qui me dit, bon, ben d'accord, alors, on accepte votre pari. C'est quoi votre pari? Je dis, je parie que le gars qui est là et qui a dit qu'il fallait couper parce que les Djounouts, ça ne pleure pas, parce que les combattants, ça ne pleure pas. Je dis que ce gars-là, je parie qu'il n'a jamais mis les pieds au maquis, qu'il n'a jamais vu un combattant libre. C'est un fonctionnaire de la Révolution, mais qui n'a jamais participé réellement à la Révolution. Il n'a jamais participé à des combats. Il n'a jamais eu de copains qui ont été tués à côté de lui. Et alors, un temps d'arrêt, et puis rigolade de tous les responsables de trucs, parce que c'était vrai. J'ai gagné mon pari, le gars n'avait jamais participé à quoi que ce soit. C'était un petit fonctionnaire de la Révolution qui voulait... Et ils ont dit, bon, ben d'accord, on passe le film sans rien couper. Voilà. Et c'était, pour moi, c'était une chose importante parce que tous les Algériens qu'on a formés au cinéma après l'ont su. Tous les Algériens qui ont été en contact avec le centre audiovisuel que j'ai dirigé à Alger après l'indépendance de l'Algérie ont su qu'il y avait eu cette histoire de demande de coupe et que est-ce que j'avais répondu ? Et que j'avais en fait gagné. Et ce refus de la censure, ça les a, je crois, beaucoup marqués. On a organisé une projection devant 1000 personnes à Tunis, et les Algériens ont dit « ça, c'est le Français qui a tourné le film que vous allez voir, et film qui est le premier film national algérien ». Et puis voilà, ça c'est. Et ensuite, j'ai formé les premiers cinéastes. J'ai dirigé le Centre audiovisuel d'Alger, qu'on a créé en Algérie. Voilà. Et puis maintenant, combien d'années après ? 40 ans, 41 ans après. Ça m'a fait très plaisir dans l'année algérienne d'être invité à monter les marches à Cannes avec la délégation des cinéastes algériens cette année 2003, là il y a quelques jours.
Présentation du film Les Ajons à la télévision algérienne, années 80.
في هذه الحصة المخرج الفرنسي روني فوتي يعرض لنا الطريقة التي تنظر بها بعض الأفلام للمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
السلام عليكم. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'images reflétant la vie des travailleurs algériens en France. Il y a eu des films de propagande tournés par le patronat français pour attirer les Algériens en France lorsque la production française avait besoin d'eux. Ce n'est pas ces images-là que je voudrais vous montrer. Dans la fin des années 60, j'ai discuté avec des travailleurs immigrés pour essayer de leur faire exprimer leur propre vie.
Et puis, entre-temps, parce que quand on fait des films sur les combats, là, on a aussi... et quand on voit ce que c'est que la répression dans les Aurès, dans les Némanchars, quand on voit les villages détruits, quand on voit ce que c'est que la guerre, quand on voit les morts, quand on voit le bombardement de Sakhet Sidi Youssef et les 25 gosses bousillés dans leur école par des avions français, on essaie aussi de comprendre comment les gens ont été amenés à faire cette guerre côté français. Comment les jeunes mobilisés, en quelque sorte, appelés ou rappelés, on a pu les amener à faire cette guerre, ce type de guerre. Et j'ai fait, après 10 ans après la fin de la guerre, j'ai réussi à monter un film qui s'appelle « Avoir 20 ans à Aizores », qui est basé entièrement sur des témoignages d'appelés et de rappelés, mais remis en scène. Et remis en scène avec des gars qui m'ont énormément aidé par leur jeu, parce qu'ils avaient compris ce qu'on leur faisait écouter. Et ce qu'on leur faisait écouter avant les tournages, c'était les propos tenus par les gars qui, eux, avaient vécu la guerre d'Algérie comme officiers ou comme simples bidas appelés et rappelés. Et parmi les gens que j'aurais tenu à remercier maintenant à Cannes, il y avait Philippe Léotard, qui joue dans Avoir 20 ans le rôle d'un officier de l'armée française, et qui a fait c'était, je crois, son premier grand rôle. J'aurais voulu qu'on puisse revoir ça avec lui maintenant, dans cette année où on essaie de rétablir les rapports normaux de peuple à peuple avec l'Algérie. J'aurais voulu qu'il puisse le voir, qu'on puisse le revoir ensemble maintenant.
Je n'aimerais pas 30 mois ou de vie à trépas, ou de vie à trépas. C'était un beau pays près de la Tunisie, mais à cause des ciseaux de Dame Anastasie, de Dame Anastasie. Je ne peux le nommer, apprenez toutefois qu'on y perdait nos temps en même temps que la foi, qu'il y avait du sable, des pitons et des rocs, et que ça n'était pas non plus loin du Maroc. Nous aussi nous marchions, et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, nous aussi marchions profondément humains, des beaux mots plein la gueule, des fusils plein les mains, des fusils plein les mains. Seulement à cette époque, et les temps ont changé, on disait d'un chanteur qu'il était engagé, qu'il était engagé. Qu'en fais-tu d'un treillis et de chaussures à clous? Il était comme nous dans la merde jusqu'au cou, dans la merde jusqu'au cou. Que faisaient en ce temps les rythmeurs condottières qui grippaient au Vietnam à l'abri de leurs frontières? On entendait alors qu'un sinistre silence, aucune chansonnette pour faire des turbulences. Car eux aussi marchaient, et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, eux aussi marchaient profondément humains, des beaux mots pleins à la gueule, des fusils pleins les mains, des fusils pleins les mains.
Appelle-toi, Nono. On n'était pas d'accord. Je me fous de ce que font les autres, tu disais. Nono, les mains blanches, quoi. Je ne mettrai pas une seule balle dans mon fusil. Je tirerai pas. On ne m'obligera pas à tuer. Mais pour moi, c'était différent. Il fallait que j'y aille. De manière à ce que je mette les gars avec moi, quoi. On peut pas se couper des masses. Et ma guibole. Père Trividic, il me disait, pense aux Algériens un peu. Au peuple algérien. Tu sais, le père Trividic, c'était le responsable du syndicat. S'il y a qu'en face d'eux qu'une armée raciste. Trividic, il m'a dit ça. Il faut qu'ils partent, les petits gars. Mais on réussira pas à faire de saloperies aux fils de prolétaires. Pas à chier. Restons des fils de prolétaires. Sous l'uniforme, il reste des fils de prolétaires. Ben, le lieutenant, il a eu la manière pour les mener. Pourtant, avec nous, il était tombé sur les pires.
Il a commencé à nous avoir dès le camp où on nous a laissé glander 3 mois. En plein Sahara. Le camp des insoumis. Des contacts dangereux pour la troupe. Quand il est venu, tu te rappelles? On se laissait complètement aller. On s'emmerdait comme des rats morts. On aurait mieux fait d'y rester.
On va partir chez nous.
Bon, on va pas y aller par 4 chemins.
Quand même qu'on n'y est même pas du tout.
Je vous connais, vous êtes désappelé. Manifestation contre la guerre d'Algérie. Rassemblée autour d'un petit sergent, instituteur, contestataire. Vous dégoûtez l'armée. Alors on vous envoie pourrir ici, dans le chaud, au fond du Sahara. Bon alors, comme je vous connais, il est juste que vous me connaissiez aussi. Lieutenant Perrin, j'ai fait l'Indochine.
C'est celui qui est là-haut qui l'a fait l'Indochine. Comme le reste d'ailleurs, il fait tout ce qu'il a là-haut. Pas vrai la Marie?
Ouais, et le 7e jour, il a fait l'Algérie, le pauvre. Votre surpose.
C'est vous le curé, hein?
On n'a pas à vous servir, mon lieutenant.
C'est pas bénit tous les matins.
Ouais.
Le lieutenant est décoré.
La gueule saoule, la gueule saoule.
Ses hommes au fond se sont dressés.
La gueule saoule, la gueule saoule.
Ses hommes sont tenus droits. La croix de fer, la gueule de bois.
Et il y a tellement de choses qui ont été faites pour interdire la diffusion du film, pour empêcher la diffusion du film, même après qu'il ait eu le Grand Prix de la critique internationale au Festival de Cannes, il y a 27 ou 28 ans, il a toujours été très difficile de le voir en France. Et là, j'aurais bien voulu, maintenant on le trouve, bon ça va, il existe en DVD, il existe en cassette, il existe, mais tout a été fait pour le faire disparaître, ce film, et il a fallu réellement le sauver. Bon, je pense qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'autres choses à faire, et que surtout, sur le plan cinéma, si on veut réellement que des rapports normaux se rétablissent, il faut faciliter la vision des films faits par les Algériens en France, parce qu'il y a eu un cinéma algérien qui a été étranglé parce que on a pratiquement refusé de le diffuser en France. Il y a très peu de choses qui ont été faites par des Algériens, par des réalisateurs algériens, par des équipes algériennes, et on a complètement oublié le dialogue qui pourtant était né dans les premières années après l'indépendance de l'Algérie. Ce sont des gars qui ont été formés au centre audiovisuel pour la plupart, qui ont fait en Algérie avec des techniciens français aussi, comme on dit en Algérie, nous, presque moitié-moitié de français et algériens, qui ont fait un film qui n'avait aucune raison de se tourner en Algérie, si ce n'est que c'était un sujet démocratique. Et c'est le film Z de Costa Gavras qui raconte d'une manière très critique la prise de pouvoir par les généraux en Grèce et les mouvements populaires pour s'opposer à cette prise de pouvoir par les généraux. Mais ce film a été tourné à Alger après l'indépendance. Et c'est le responsable du cinéma algérien de l'époque, qui était un monsieur qu'on m'avait donné des années auparavant, en me disant « essaie d'en faire un cinéaste ». Il s'appelle Ahmed Rajdi. Il a fait « L'opium et le bâton », il a fait « Le moulin de Monsieur Fabre », qu'on diffuse actuellement dans l'année algérienne ici. Et c'est lui qui a été chercher l'Oscar du meilleur film international à Hollywood pour ce film de Costa Gavras, mais qui était une coproduction franco-algérienne ou algéro-française. Ça dépend de quel côté de la Méditerranée on se trouve. Et je pense sur ce plan que même si les difficultés en Algérie ont fait que les salles de cinéma n'existent plus, là-bas, pratiquement, il y en a très peu qui sont gérés d'une manière, comme la cinémathèque algérienne le fait avec peu de moyens. C'est une très grande cinémathèque, la cinémathèque algérienne. Et les gars qui s'en occupent, Boudjema Karesh et quelques autres, sont réellement des gars à qui il faut rendre hommage sur le plan du dialogue international en images. Eh bien, la meilleure chose que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est peut-être, devant l'invasion des salles par le cinéma américain, de repousser un petit peu cette invasion-là, pour laisser la parole aux films qui viennent d'Algérie ou qui viennent d'ailleurs et qui servent à montrer réellement la vie d'un peuple. Ça y est, ça c'est le prêche voissier, c'est le côté curé breton, c'est vrai que il y a une petite histoire peut-être pour clore ça. J'ai été présenté des films que j'avais tournés en Algérie, à la fois pendant la guerre d'Algérie et après l'indépendance de l'Algérie, que j'ai tourné avec mes amis algériens, donc. Et j'ai été les présenter dans l'Est, un festival en particulier à Annaba. Annaba, c'est l'ancien Beaune, c'est donc une des plus grandes villes d'Algérie. On avait projeté pas mal de films. Et puis, il y a des jeunes, un groupe de jeunes, 6 ou 7 gars, qui viennent me voir et puis qui me disent « Ah, René, anta mtana ». Mtana, ça veut dire René, anta mtana, c'est « tu es à nous ». Je dis « bah oui, comme on peut être des amis, il y a des... » Et dit « non, plus que ça, tu es à nous, t'as fait beaucoup de choses pour qu'on nous connaisse ailleurs ». Je fais ce que j'ai pu, quoi, mais plus parce qu'on s'aime bien, quoi. Il dit oui, mais tu, anta shabe, tu es vieux. Je dis bah oui, c'est grippe-smout, tu vas mourir bientôt. Je dis bah oui, il faut s'y faire, quoi. Pas tout de suite. Il me dit non, inshallah, le plus tard possible. Mais quand tu seras mort, c'est ici qu'on t'enterre. Je m'en serrerai, c'est pas tout de suite, et puis de toute façon, c'est pas possible parce qu'on va pas m'en serrer. Il dit quoi, tu crois pas que tu vas vivre tout le temps? Je dis non, mais quand je serai mort, on va pas m'enterrer, j'ai décidé que je serai incinéré. Incinéré, c'est quoi? Incinéré, c'est brûlé. On va me brûler, puis il y aura des cendres qui restent. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec tes cendres? Alors je dis, ben les cendres, moi je suis né dans un petit port tout au bout de la Bretagne, qui s'appelle Camaret. Les copains vont emmener mes cendres, les copains, ma femme, les enfants, vont emmener mes cendres là-bas. Et puis en face du port, entre Camaret et l'île d'Ouessant, il y a l'Iroise. Et l'Iroise, c'est un courant, le plus fort courant d'Europe. Et alors, pour que je puisse continuer à me promener un petit peu après, comme ça, on va verser mes cendres dans le courant. Et puis, elles vogueront comme ça. Non. Alors, le gars qui parlait le mieux français traduit ça pour ses copains. Et puis, il revient vers moi et il me dit, écoute, René, toutes tes cendres dans l'eau là-bas? Je dis, ben je pense, oui, que tu veux qu'on fasse du reste. Il me dit, écoute, est-ce qu'on peut voir avec tes copains ou avec ta famille pour nous, Algériens? On partage, nous, moitié-moitié pour tes cendres. Je dis, ça, c'est encore à voir, on ne sait pas, on verra bien. Et voilà, j'espère qu'on verra, hein. Pas tout de suite, mais un petit peu plus tard, ça peut s'envisager, quoi. S'ils le souhaitent vraiment. Thank you. pour mon film de fin d'études à l'IDEC, j'avais demandé à aller tourner une manifestation dans les rues de Paris. Et c'était une manifestation antiraciste qui démarrait, des étudiants antiracistes qui devaient démarrer dans la Sorbonne. Et on m'avait dit, alors voilà, comme on apprend des choses quand même utiles, l'IDEC, on est respectueux, on apprend aux gens à être respectueux des lois. On m'a dit, bon, bah, alors tu remplis toi-même ta demande, tu dis étudiant à l'IDEC, tu dis que c'est le film de fin d'année, tu demandes l'autorisation de tournage. Je dis, pourquoi il faut une autorisation de tournage pour faire des images pour... On me dit, bah, parce que c'est comme ça, il faut une autorisation de la préfecture de police. Alors nous, on transmettra, l'IDEC transmettra ta demande. Et puis l'IDEC a transmis la demande et on m'a répondu en me renvoyant une autorisation écrite et un brassard. Un brassard avec un tampon du commissariat ou de la préfecture de police, j'en sais rien. Et je me suis dit, pourquoi il faut que je mette ça pour... On m'a dit, oui, c'est ça, et tu restes du côté des forces de l'ordre. Bon, et puis je suis parti, j'étais pas particulièrement réfractaire à l'idée de rester du côté des forces de l'ordre. Bon, et puis au milieu des forces de l'ordre, j'ai entendu ce que disaient les forces de l'ordre avant de charger. Les flics qui disaient, ah ben, le bico qui est là en face, tu me le laisses, en tapotant sa main avec sa matraque, à celui-là, tu me le laisses, tu vas voir tout à l'heure, et l'autre à côté qui disait, ouais, et puis moi, le petit jaune qui est là à côté, tu vas voir si je vais lui tabasser la couleur, et puis un autre qui disait, et puis le négro, là, il est pour moi, il est pour... Bon, et... qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, ben, t'enlèves ton brassard, tu le leur balances à la figure et tu passes en face, quoi. C'est-à-dire que tu choisis ton camp. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et puis, quand je me suis retrouvé après, parce que quand tu choisis ton camp, en expliquant pourquoi, à l'officier de police, quand les gars chargent et que tu es avec les gens en face, tu deviens une cible privilégiée, quoi. Et je me suis retrouvé avec un bras démi, une élongation des ligaments du coude et surtout une caméra cassée. Et quand j'ai ramené ça à l'IDEC, on m'a dit, alors, t'as pas encore compris, là, tu vois, ta caméra de l'IDEC, elle est cassée, parce que c'était une caméra de l'école. La caméra de l'IDEC, elle est cassée. Alors, j'espère que maintenant, t'as compris ce qu'il faut faire pour faire du cinéma. Et effectivement, j'avais parfaitement compris. Il fallait être du côté des gens à qui on refusait la possibilité de s'exprimer autrement. Voilà. Et puis, ça a continué.
Hiro Chirac, 1995.
La police, les CRS bloquent les ponts. La contestation ne passera pas.
Je suis cinéaste, je suis retraité cinéaste.
La CGT, non ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Non, mais je vous demande, parce que vous êtes de Montreuil, la CGT est à Montreuil.
La CGT est à Montreuil, j'habite à 200 mètres.
Voilà, c'est parfait. Donc on va
prendre une enquête. C'est pas encore un crime, de toute façon.
Non, mais vous participez à une manifestation interdite, monsieur.
Sur le pont, ici, en passant ?
Oui.
Ah bon ? Ça, c'est la meilleure, alors.
Vous aurez des nouvelles.
Oui, d'accord.
Vous avez filmé d'ailleurs. C'est interdit, vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de carte d'accréditation de journaliste.
Je regrette, j'en ai une. De toute façon, j'ai ma carte cinéaste. Si vous voulez, mais je ne suis pas tenu de me promener avec une carte professionnelle. Et de toute façon, non, je tiens simplement
sur certains points, oui.
Ah bon ? Sur la place de la Concorde,
oui,
tenu d'avoir une carte
professionnelle. Oui, monsieur, des autorisations du préfet de police.
c'est pas vrai.
Je regrette, sur ce plan, vous mentez.
C'est des photofilmeurs.
Vous mentez. Vous
êtes des photofilmeurs, donc
vous êtes obligé d'avoir.
Absolument pas.
Vous êtes cinéaste, vous m'avez dit, donc vous êtes cinéaste, vous êtes considéré comme un professionnel.
Oui.
En tant que professionnel, vous êtes considéré comme un photofilmeur.
J'ai parfaitement.
Et vous êtes
filmeur avec une photo d'amateur.
Photofilmeur, vous êtes photofilmeur. Donc photofilmeur, c'est un. Vous exercez une profession sur la place de la Concorde, sur le pont de la Concorde, devant l'Assemblée nationale.
Pourquoi terminer sur ces images? Pour le clin d'œil, bien sûr, mais aussi parce que tout ce que dit le commandant de CRS est entièrement faux. Il l'invente au fur et à mesure. Caché sous son uniforme, il crée une nouvelle loi. Il est parfaitement permis en France de filmer. Simplement, lorsqu'un pouvoir va à l'encontre d'une volonté populaire, les représentants de l'ordre sont amenés à sortir de la loi, fort de l'uniforme qui leur assure l'impunité. À nous, tous ensemble, de faire respecter la loi en défendant la paix, dont nous sommes en fait les vrais gardiens.
René Vautier, Caméra au point. Une émission de Xavier Barre. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Gaël Gillon. Merci à Oriane Brun et Lionel Soukaz. Les films de René Vautier, d'Afrique 50 à Dialogue d'images en temps de guerre, actuellement en cours de montage, sont distribués par la Cinémathèque de Bretagne. On peut trouver le DVD d'Avoir 20 ans dans les Aurès, suivi de Peuple en marche, aux éditions d'Oriane. Enfin, les mémoires de René Vautier, Caméra citoyenne, aux éditions Apogée, à Rennes, sont presque épuisées. On souhaite bien sûr leur réédition prochaine.
Ce documentaire a été diffusé le 10 juin 2003 sur France Culture.